Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Vitesse ou précipitation? Certains s'inquiètent après l'annonce d'un projet de loi permettant d'accélérer la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Un projet qui fixe un cadre pour les dons, mais qui donne aussi davantage de souplesse pour la réalisation des travaux. On est à la veille de la grande explication d'Emmanuel Macron. Les détails de la préparation de cette conférence de presse avec Hélène Jouan dans un instant. Pour la première fois, la France a commémoré officiellement aujourd'hui le génocide arménien. C'était une promesse de campagne du candidat Macron. Du béton déversé dans la Seine pendant plusieurs mois sur le chantier du RER E. Une plainte a été déposée. Il a récidivé, le cycliste Julian Alaphilippe, vainqueur pour la deuxième année consécutive de la Flèche Wallonne. Lui a tiré sa révérence. Dick Rivers, voix emblématique des 60s, s'est éteint le jour de ses 74 ans. Du côté de la météo, on s'apprête à vivre 24 heures très agitées avec de la pluie et du vent, parfois très violent. D'ailleurs, 4 départements sont placés en vigilance orange pour ce soir, cette nuit et demain matin. L'Isère, la Loire, le Rhône et la Haute-Loire, on y attend des rafales jusqu'à 130 km/h. Pluie abondante entre le Massif central et la Bourgogne et même de la neige en moyenne altitude. Ne manquez pas les prévisions météo complètes d'Elena Morna, ce sera évidemment à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le directeur général de Blédina France, Marcus Sommer.
Europe 1.
Elle sera reconstruite d'ici 5 ans, a dit Emmanuel Macron. Pour remettre sur pied Notre-Dame de Paris, il va donc falloir aller vite, très vite, trop vite, disent certains. Ce matin, un projet de loi a été présenté. Il autorise notamment des dérogations à certaines règles en matière de marché public. Stéphane Bern, notamment, s'en inquiète. Le risque, selon lui, c'est de créer des précédents. Il y a beaucoup de précipitations, estime l'animateur. Quant à l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, il se félicite de ce volontarisme, mais il émet toutefois quelques réserves.
Le seul point sur lequel je mettrais une interrogation, c'est sur l'idée que les restaurateurs pourraient s'affranchir des règles des marchés publics. Est-ce bien nécessaire? Il faut sur ce plan-là que ce soit incontestable. Il faut mettre en compétition réellement les diverses entreprises. L'essentiel, c'est la volonté publique clairement affirmée, et qui, je l'espère, sera confirmée par le Parlement, de mener ce chantier avec vigueur, exigence et respect d'un délai qui me paraît raisonnable, un délai de 5 ans.
Jack Lang au micro européen de Marion Jorth. L'institution des courses françaises s'est jointe à son tour à l'élan de solidarité avec un don d'1,1 million d'euros pour la reconstruction de la cathédrale, tandis que l'actrice Pamela Anderson, ex-star de la série Alerte à Malibu et compagne d'Adil Rami, le joueur de l'Olympique de Marseille, pousse un coup de gueule aujourd'hui. Elle est furieuse de voir que 100 000 euros ont été récoltés hier soir pour Notre-Dame lors d'une soirée de charité initialement dédiée à l'enfance marseillaise en difficulté. Les enfants marseillais, dit-elle, auraient eu davantage besoin de ces 100 000 euros que cette cathédrale qui a déjà reçu plus d'un milliard de dons. On a par ailleurs appris aujourd'hui que des salariés qui montaient l'échafaudage autour de la Flèche ont reconnu avoir fumé, alors que c'était bien sûr totalement interdit. Mais le responsable exclut qu'une cigarette puisse être à l'origine de l'incendie. C'est un exercice périlleux auquel va se livrer demain Emmanuel Macron. Le président donne rendez-vous aux Français et aux journalistes à 18h pour une grande conférence de presse. Ce sera la première à l'Élysée depuis le début de son mandat, au cours de laquelle il va bien sûr détailler les chantiers qu'il compte mettre en œuvre pour clôturer la séquence du grand débat national. Hélène Jouan, après avoir longuement échangé avec les Français et avec les élus, le président cette fois sera donc face à des journalistes.
Et c'est un exercice inédit pour lui. François Hollande en avait tant usé que c'était un repoussoir pour Emmanuel Macron. Mais après tout, avant, le général de Gaulle y excella, alors va pour une conférence de presse. Alors, après plus de 3 mois de débat, avec une mobilisation des Gilets jaunes qui s'épuise mais n'en finit pas depuis l'automne, quelles sont les solutions que le président a choisi de retenir? Les annonces qui ont fuité après l'allocution enregistrée mais non diffusée à cause de l'incendie de Notre-Dame sont-elles toujours d'actualité? Non, ça n'existe pas pour nous, balaye l'Élysée. Après 20 minutes de propos liminaires pour fixer, nous dit-on, les perspectives et le cap, Emmanuel Macron pourrait en réponse aux questions des journalistes expliciter certaines des annonces éventées, baisse de l'impôt, réindexation des retraites, RIP local mais pas national ou encore le moratoire sur les hôpitaux et les écoles, et en ajouter d'autres, radicales pour certaines, nous promettons, peut-être celles censées produire ce fameux effet de surprise, l'effet waouh tant attendu. Durée de cet échange avec la presse, au moins 2 heures. Mais s'il y prend autant de plaisir qu'avec les élus, allez savoir, ça pourrait s'éterniser. Enfin, l'Élysée refuse de considérer ces annonces comme une conclusion. Non, tout commence à partir de demain, car le président souhaite que ça embraye vite derrière. Un séminaire gouvernement majorité convoqué dès lundi pour délivrer ensuite rapidement un calendrier de mise en œuvre des mesures. Comprenez, le président a pris son temps, mais maintenant que c'est parti, c'est parti.
Et voilà, Hélène Jouan du service politique d'Europe 1, cette conférence de presse, vous pourrez la suivre en direct et en intégralité, évidemment, demain sur notre site internet europe1.fr et on la débriefera ensemble dans le journal de la nuit. Et j'en profite, Hélène Jouan, pour signaler que vous recevrez dans le grand rendez-vous dimanche Manon Aubry, la tête de liste de la France insoumise aux européennes.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h05, merci d'écouter Europe 1 et on l'apprend à l'instant, le décès de l'acteur Jean-Pierre Marielle. Jean-Pierre Marielle qui avait 87 ans, c'est sa famille qui annonce son décès à la seconde à l'agence France Presse. On aura l'occasion d'y revenir plus longuement d'ici la fin de ce journal. C'est une information qu'Europe 1 vous révélait ce matin, un flagrant délit de pollution. Lors d'une inspection de routine sur les berges de la Seine en mars, un garde-pêche a découvert que du ciment avait été rejeté dans le fleuve. Ça se passe sur le site de fabrication du béton qui alimente le chantier d'extension du RER Éole. Guillaume Bier, que répond le groupe Vinci ?
Pour Vinci Construction, il s'agit, je cite, d'un incident anormal et exceptionnel. Le groupe assure avoir tout fait pour stopper cet écoulement et nettoyer la zone. Sur place, l'écoulement a bien cessé, oui, mais la végétation reste grillée sous le ciment. Quant au fond de la Seine, il y a bien des mètres cubes de cailloux, sable et résidus de béton accumulés depuis plusieurs mois selon les gardes-pêches. Pour preuve, il reste à cet endroit 15 à 30 cm d'eau contre 1 à 2 mètres de fond en temps normal. Alors à qui la faute ? La procédure est entre les mains du parquet de Nanterre. Vinci Construction a lancé une enquête interne et évoque des sanctions si des responsabilités individuelles venaient à être établies. D'après nos informations dans cette usine à béton, le système qui recycle les eaux de nettoyage des camions toupies était plein, hors service. C'est ce qu'a expliqué à la police le responsable du site par intérim. Du coup, une immense fosse a été creusée à même le sol pour recueillir cette eau chargée de résidus de ciment. Fosse pleine à ras-bord et donc le grillage du site a été écarté pour faciliter l'écoulement de cette laitance de béton jusqu'à la Seine. Un écoulement involontaire, selon Vinci Construction. Impossible, estiment les gardes-pêches, pour qui cela a été fait sciemment. Ils ont donc porté plainte.
Les précisions de Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. C'était une promesse du candidat Macron, faire du 24 avril la première journée de commémoration du génocide arménien, sujet délicat évidemment sur le plan politique. Jean-Sébastien Soldaini a assisté cet après-midi à cette cérémonie Pont des Invalides à Paris.
Au bord de la Seine, la statue du père Komitas est bien connue de la communauté arménienne. Un musicien né en pays ottoman puis déporté, symbole du génocide de 1915 que la Turquie refuse de reconnaître, au contraire de la France, comme l'assume Édouard Philippe.
Ce que nous recherchons, c'est l'exactitude historique. En rendant hommage aux victimes du génocide arménien, la France est fidèle à elle-même, fidèle à ses valeurs. C'est son honneur que de l'assumer. Elle ne se laissera impressionner par aucune pression, ni par aucun mensonge.
C'est un sujet de tension récurrent entre Ankara et l'Union européenne. Chorinar, une arménienne de Paris, ravie par cette cérémonie, aimerait aussi que la France aille un peu plus loin.
On avance très lentement, on ne perd pas d'espoir encore, jusqu'au le jour où la Turquie va accepter qu'il y a eu un génocide, qu'ils nous ont pas seulement massacrés, mais ils nous ont tout pris.
Elle espère que la France fera prochainement voter une loi pour que la négation du génocide arménien soit reconnue comme un délit.
Jean-Sébastien Soldaini. L'ultime recours des parents de Vincent Lambert après la validation par le Conseil d'État de l'arrêt des traitements de leur fils qui est tétraplégique depuis plus de 10 ans dans un état irréversible. Ils ont décidé aujourd'hui de se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Il est 20h09 et cet appel qui a été lancé aujourd'hui par les maires de 13 grandes villes françaises, Paris, Strasbourg, Nantes, Toulouse notamment, il faut davantage de places pour l'hébergement des migrants, 122 000 demandeurs d'asile l'an passé pour 86 000 places. Ces élus ont écrit au ministre de l'Intérieur et à celui du Logement, ils demandent à l'État, Victor Dolande, de prendre ses responsabilités.
Oui, 4 ans après le début de la crise de l'accueil des migrants, des campements se reforment un peu partout dans les grandes villes. Jean-Michel habite une tour tout près de la porte de la Chapelle à Paris. Il croise tous les jours des toxicomanes, des centaines de tentes se sont installées en bas de chez lui. Il en a marre et a décidé d'écrire au ministre de l'Intérieur.
J'ai envoyé un mail d'avertissement en disant au secours, stop, ça suffit. Parce que ça fait 30 ans que j'habite à cette porte. Bon, il y a toujours eu du passage, beaucoup d'incidents divers. Mais là, on a passé un stade.
Et à chaque fois la même solution, ces camps de fortune sont démantelés dans l'urgence, les réfugiés relogés dans des hébergements temporaires. C'est insuffisant, il faut faire beaucoup plus pour la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Aujourd'hui, le sentiment que nous avons, nous les maires, c'est que nous sommes abandonnés, que lorsque le problème n'est pas visible, on ne le traite pas. Et donc l'appel que nous faisons, les maires, c'est de nous réunir avec l'État. On trouve effectivement les solutions d'hébergement.
Ces 13 maires ont écrit aujourd'hui au ministre de l'Intérieur et du Logement pour alerter sur l'urgence de la situation. Ils demandent à être reçus le plus rapidement possible pour trouver enfin une solution durable sur l'accueil des migrants.
Les précisions de Victor Dolande.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h11, merci d'écouter Europe 1 et je vous le disais tout à l'heure, on a appris il y a quelques minutes la disparition du comédien Jean-Pierre Mariel. Jean-Pierre Mariel qui avait 87 ans et qui est décédé à l'hôpital de Saint-Cloud en banlieue parisienne des suites d'une longue maladie. C'est son épouse Agathe qui vient de l'annoncer à nos confrères de l'agence France Presse dans un communiqué. Elle précise que ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité. Jean-Pierre Mariel, c'est bien sûr cette voix chaude et caverneuse. Il a joué dans plus de 200 films, il était habitué des personnages comiques hauts en couleur, notamment dans Les Galettes de Pont-Aven, dans La Valise, Le Diable par la queue. Il s'est aussi fait remarquer dans des rôles plus dramatiques, Les Mois d'avril sont meurtriers, Tous les matins du monde, Les âmes grises ou encore dans des classiques comme Quelques jours avec moi de Claude Sauté. Il a également effectué, Jean-Pierre Mariel, une brillante carrière sur les planches. Il a reçu un Molière du meilleur comédien en 1994 pour son interprétation dans Le Retour de Harold Pinter. Et il fait partie, on ne le sait pas forcément, mais de ces acteurs à avoir de nombreuses fois été nommés au César, 7 fois au total, sans jamais remporter le prix. Lui-même d'ailleurs revendiquait de ne jamais avoir assisté à cette cérémonie et déclarait « Les Césars, j'en ai rien à foutre, je ne suis pas un acteur de tombola, l'important c'est devant la caméra, c'est servir un auteur, en découvrir un nouveau ». Adieu donc, monsieur Jean-Pierre Mariel. Et puis en fin de matinée, on a appris aujourd'hui une autre disparition, celle d'une grande figure du rock français, idole de la période yéyé, Dick Rivers et sa célèbre Banane. Dick Rivers qui se qualifie lui-même comme le troisième larron du rock français avec Johnny et Eddie. Et bien sûr, il époque des chats sauvages dans les années 60, plus de 50 ans de carrière, une trentaine d'albums. Dick Rivers a succombé à un cancer le jour de ses 74 ans. Une personnalité et un parcours auquel son fils Pascal Fornery tient à rendre hommage ce soir.
C'est quand même quelqu'un qui est une sacrée personnalité, un petit ado du vieux Nice qui se retrouve rapidement au Palais des Sports et la carrière qu'il a eue derrière. Tout ça parce que il a décidé qu'il voulait être chanteur de rock. Il faisait partie de ces artistes qui favorisaient le show, toujours quelqu'un qui est finalement assez pudique sur sa vie privée, sur ses émotions, mais qui est dans une tradition un peu à l'anglo-saxonne de faire un bon spectacle pour que les gens passent une bonne soirée. Parce que je pense que ses modèles, ces artistes qui l'ont influencé, étaient comme ça. Presley, bien sûr, et puis les pionniers du rock anglo-saxon. Ça, c'est sûr que Presley a changé sa vie.
Le fils de Dick Rivers qui était avec Bérangère Bond. Dick Rivers qui était donc originaire de Nice. Le club de foot de la ville a d'ailleurs décidé de lui dédier son match de dimanche en Ligue 1 contre Guingamp. Et puis à propos de sport, il est la sensation de ce début de saison en cyclisme. Le français Julien Alaphilippe qui remporte pour la 2e fois la Flèche Wallonne. Une course spectaculaire et incertaine jusqu'au bout, Jean-François Pérez.
Il restait à peine 150 mètres à parcourir sur les pentes du légendaire mur de Huy, l'une des montées les plus abruptes et violentes de l'année. Alaphilippe est juste derrière le Danois Poulsang, mais celui-ci commet l'erreur fatale de se retourner pour voir qui le suit. Le Français en profite pour accélérer et casser la ligne juste devant son rival. Deuxième victoire d'affilée sur la flèche wallonne pour le leader de l'équipe belge de Koninck Quickstep et une fierté très sereine au micro.
D'arriver ici cette année en ayant le numéro 1 dans le dos, c'était pas forcément évident, mais voilà, j'ai essayé de me détacher de toute la pression que je pouvais ressentir. J'ai été très bien soutenu par toute mon équipe aujourd'hui, qui a fait un très, très gros travail. Je suis très fier d'eux et très content d'avoir terminé la journée comme ça.
Il y a un mois tout juste, Julien Alaphilippe remportait Milan San Remo, le voilà solide numéro 1 au classement mondial. Alors vous allez me dire, est-il désormais le favori du Tour de France? Eh bien non, l'ancien champion de cyclocross est avant tout un puncher, spécialiste des courses d'un jour. Pas le même type d'effort que le Tour et son marathon de 3 semaines. Mais la suite n'en est pas moins excitante. Julien Alaphilippe visera dès dimanche une 4e victoire cette année sur la dernière des grandes classiques du Nord, Liège-Bastogne-Liège, dont il sera évidemment l'un des principaux favoris.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Et on va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Et c'est important parce que cette météo, elle est marquée par le vent et par la pluie dès cette nuit.
Ouh là là, oui Isabelle, c'est du costaud qui nous tombe dessus. Le vent d'abord, 4 départements en vigilance orange, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Isère, où on a déjà enregistré de très fortes rafales de vent jusqu'à 120 km/h. Vent qui va souffler fort et se renforcer encore cette nuit jusqu'à demain après-midi. Entre la basse vallée du Rhône, le massif central, Rhône-Alpes et dans une moindre mesure le nord-est. Alors la pluie, elle va tomber dru sur le massif central demain matin avec en prime de bonnes chutes de neige. Et elle s'étendra ensuite jusqu'en Bourgogne. Les quantités d'eau seront importantes sur le sud du massif central, quelques 200 mm. En 24 heures. Sur le reste des régions, ce sera nuageux et pluvieux. Sur l'ouest, un cocktail d'éclaircies, d'averses, quelques orages, du vent, plus sec sur l'Aquitaine. Alors les températures, elles baissent, on se retrouve dans une atmosphère de saison. 11 degrés demain après-midi à Aurillac, 14 à Lorient et Nantes, 15 à Caen, Bourges et Auxerre, 16 à Lille et Angoulême, 17 à Paris, Bordeaux, Montpellier, 18 à Lyon et Toulouse, 20 degrés pour Belfort et Ajaccio, 23 pour Strasbourg. Météo plus calme dans le sud à partir de vendredi. En revanche, ce sera très agité, vent et grésil, samedi sur le nord-ouest et le nord de la Seine.
La météo très agitée, donc signée Elena Morna.